Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 9. Et le thème, c'est toujours encore au sujet du Saint-Esprit, deuxième partie. Nous avons déjà vu la question « Peut-on recevoir les dons spirituels de nos jours ?» Or, la question est tellement demandée qu'il vaut la peine d'en parler encore un peu. Du reste, pourquoi pas? Voyez-vous, à ceux qui disent non, qu'ils apportent leurs preuves, rien dans l'Écriture sainte, la raison ou l'expérience, ne nous permet de croire que les dons du Saint-Esprit, sans aucune exception, ne sont plus d'aujourd'hui. Voyons quels sont les arguments les plus fréquemment avancés pour prouver qu'on ne doit plus compter au XXIe siècle sur les dons surnaturels qui, au premier siècle, étaient si répandus dans l'Église. Revoyons un peu cela, peut-être un peu différemment. Premièrement, on prétend que Dieu a cessé d'accorder ses manifestations de son Esprit Saint depuis la fin de l'âge apostolique. C'est ce qu'on prétend. Or, sur quelle autorité fonder une telle affirmation? Non pas certes sur celle du Nouveau Testament, je ne pense pas. Il ne contient pas une seule ligne qui indique que Dieu ait eu l'intention de retirer ses dons. Bien au contraire, nous lisons que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains, chapitre 11, verset 29. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Christ ressuscité qui travaillait avec ses premiers disciples et qui confirmait la Sainte Parole par les miracles qui l'accompagnaient, notez Saint Marc chapitre 16, verset 20, il est aussi avec eux, et je pense, jusqu'à la fin du monde, selon Saint Matthieu chapitre 28, verset 20. Donc, si nous cherchons à rabaisser l'expérience spirituelle telle qu'elle nous est présentée dans la Sainte Bible, et cela au niveau de notre pauvre expérience, et je parle pour moi, et de nos propres opinions, ou alors nous arrêtons-nous, ou allons-nous? On cite souvent un verset qui prouverait, dit-on, que certains dons spirituels ne sont plus de notre temps, les langues cesseront. Qu'est-ce qu'ils sont heureux d'avoir trouvé ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Or, chose curieuse, on affirme que les langues cesseront, et l'on semble ignorer qu'il en est tout à fait de même de la prophétie et de la connaissance. Nos contradicteurs possèdent en général cette dernière avec abondance et se récrieraient vivement si on leur disait que la connaissance a disparu, elle aussi, en ce qui les concerne. Voyez-vous, ce passage se rapporte évidemment au moment où ce qui est parfait sera venu, verset 10, non pas à l'époque actuelle où nous voyons confusément comme dans un miroir, les dons cesseront quand nous verrons face à face, verset 12. En fait, tout le passage prouve avec une très grande force que nous devons compter sur les dons spirituels jusqu'à la fin du monde actuel, puisque le but divin en vue duquel ils ont été donnés ne sera atteint que lorsque ce qui est parfait sera venu. On admettra facilement que nous n'y sommes pas encore, me semble-t-il. Deuxièmement, l'histoire prouve que les dons spirituels à la fin de l'âge sont donc à la fin de l'âge apostolique. Je répète, l'histoire prouve que les dons ont disparu à la fin de l'âge apostolique. Voyons cela de plus près. Ceci est peut-être vrai en partie seulement, mais d'un autre côté, c'est faux dans l'ensemble. Voyez-vous, en somme, l'histoire prouverait plutôt le contraire. Ce qui est vrai, c'est que les dons ont été moins en évidence après l'âge apostolique et même déjà vers la fin de cette époque. Non pas que le Seigneur avait retiré ses dons, mais comme le dit John Wesley, parce que l'amour de beaucoup, de presque tous, ou de tous ceux qui portent le nom de chrétien, s'était réchauffé, sûrement pas, s'était refroidi. Telle est donc la véritable raison pour laquelle les dons extraordinaires du Saint-Esprit disparurent de l'Église chrétienne. Aux époques du réveil, à travers toute l'histoire de l'Église, ils réapparurent sous une forme ou sous une autre. Chers amis, prenons garde. Il ne faut pas accuser Dieu de retirer ses dons si, en réalité, c'est l'Église, oui, l'Église, qui les a perdus par sa tiédeur. Cependant, il n'est pas exact de dire que les dons aient jamais cessé. Notons par exemple Irénée, Tertullien, Jean Chrysostome, Augustin, tout cela font allusion à ces dons comme existants à leur époque. Quand j'ai cité Jean Chrysostome, j'ai peut-être estropié un peu son nom, mais ils ont tous avoir eu connaissance et connu les dons spirituels. Pendant le Moyen Âge, ils apparurent parmi les Vaudois et les Albigeois persécutés, et plus tard parmi les Jansénistes, les premiers Quakers, les prophètes séminoles, les méthodistes à leur début, et jusque dans l'église des Irvingiens au XIXe siècle. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu le don des langues ou d'autres manifestations de cet esprit bien longtemps avant la grande effusion actuelle qui a commencé autour du XIXe siècle. Troisièmement, ils disent que le canon du Nouveau Testament était définitivement constitué, le ministère des dons spirituels n'est plus nécessaire puisque nous avons la parole écrite. C'est un argument qui pourrait tenir debout, mais voyons cela de plus près. Car cet argument ne tient aucun compte de la véritable nature des dons de l'Esprit-Saint. On se figure que l'Église primitive attachait la même autorité à l'exercice de ces dons que aux Saintes Écritures. Le Nouveau Testament prouve exactement le contraire. L'Église primitive fait constamment appel à l'autorité des Saintes Écritures de l'Ancien Testament et jamais à l'autorité de ses propres prophètes pour fonder les doctrines et pour trancher les discussions. Eh bien, j'aimerais que vous notiez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16, chapitre 15, verset 15, et le chapitre 28, verset 22. Les prophéties de l'Écriture sainte, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, avaient une toute autre autorité que les dons spirituels. Il en est toujours ainsi, que vous le croyez ou pas, aujourd'hui. Les dons spirituels n'ont pas eu pour but la composition du Nouveau Testament. Ils ne remplaçaient pas la parole écrite avant que le Nouveau Testament fût composé. Leur rôle était tout différent. Et si on les exerce normalement dans leur propre sphère, ils sont aussi précieux et nécessaires aujourd'hui que autrefois. Quatrièmement, ils disent, mais les dons ne sont plus nécessaires aujourd'hui, car le monde est convaincu de la vérité du christianisme. Voyons, peut-on avancer sérieusement un pareil argument? Même en pays chrétien, il y a des multitudes d'incrédules. L'Église ne doit-elle plus compter que sur l'éloquent appel uniquement intellectuel pour assurer la victoire de l'Évangile? On le dirait si on en juge par la préparation donnée aux pasteurs dans les écoles théologiques. De telles armes sont légitimes et précieuses, nous l'admettons. Mais il y a des foules qui ne seront jamais touchées par l'Évangile si ce n'est par une manifestation surnaturelle de puissance, foule altérée en face d'une Église qui parfois est sans puissance. Que la guérison divine et la manifestation des autres dons, car il y en a d'autres, aient une grande puissance pour éveiller les indifférents, pour convaincre de péché, par exemple, pour attirer à l'Évangile et aboutir à de véritables conversions, eh bien le fait est abondamment prouvé, car partout où le ministère des dons spirituels est exercé, croyez-le ou pas, les foules accourent en masse. Donc, l'exercice des dons spirituels produit aussi dans les services religieux un tel sentiment de la réalité, je répète, la réalité de la présence du Dieu vivant, que les chrétiens qui goûtent ces choses-là sont remplis d'un enthousiasme entièrement nouveau. Et ces résultats, je vous le demande, ne sont-ils pas nécessaires et précieux de nos jours? Les missionnaires dans les pays païens sont dans une situation tout à fait analogue à celle des premiers apôtres, et cela même aujourd'hui. Tout le monde admettra sûrement que pour eux, les dons de l'Esprit-Saint constituent une aide appréciable. Mais si l'on admet leur réalité et leur valeur pour les champs de mission, alors on ne peut plus soutenir qu'ils ne sont pour notre temps. Et cinquièmement, si ces dons sont réellement pour notre temps, c'est ce qu'ils disent, pourquoi les dirigeants des églises ne les exercent-ils pas? Eh bien, cela pour différentes raisons. Car quelques-uns se sont, me semble-t-il, détournés de la simplicité de l'évangile de la vérité qui est en Jésus-Christ, ainsi des doctrines essentielles de la foi. On ne peut guère s'attendre à ce que le Saint-Esprit confère ces dons-là à de tels pasteurs. Voyez-vous, beaucoup sont fidèles, c'est vrai, sont fidèles à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mais, il y a le plus souvent, et cela par une étrange inconséquence, il y a une complète incrédulité en ce qui concerne les dons spirituels. On ne les désire pas, on ne les attend pas, on ne croit pas qu'il soit possible de les recevoir. Or, il y a un principe infaillible ici, qu'il vous soit fait selon votre foi, nous est-il dit. Car Dieu n'impose pas ses grâces à ceux qui ne les attendent pas avec foi. Et dans certains cas, il est triste de le dire, le prix à payer a été jugé trop élevé. Une opposition acerbe contre les dons spirituels est souvent le fait d'une conscience troublée qui essaye de se justifier de n'avoir pas répondu à un appel très clair de Dieu qui lui voulait l'engager dans cette voie. Et parmi les plus consacrés et les plus spirituels des enfants de Dieu, il y a souvent une crainte étrange, très étrange, et bien exagérée, souvent exagérée, de la puissance des démons, c'est ce qu'ils disent, et de leur habileté à séduire, à imiter. C'est des peurs exagérées. Car le Seigneur, je vous le demande, laisserait-il un homme qui est sincère et qui recherche une vie plus étroitement unie à la sienne devenir le jouet du prince des ténèbres? S'il vous plaît, je vous demande d'y réfléchir. Que l'on médite plutôt Saint-Luc chapitre 11, versets 11 à 13, par crainte de faire fausse route, on préfère n'avoir aucune expérience du surnaturel. On oublie que le Nouveau Testament contient des règles très simples pour éprouver les esprits et qu'un esprit de crainte y est tout spécialement condamné. Ce fut un coup de maître de Satan de priver beaucoup d'excellents chrétiens des richesses de leur héritage, et cela par la crainte des illusions. Et il est très regrettable, me semble-t-il, que plusieurs des docteurs chrétiens les plus remarquables se soient prêtés de nos jours à cette besogne. Depuis des années, la preuve a pu être faite qu'il n'y a rien de démoniaque dans les expériences qui ont été accordées à tant d'enfants de Dieu. Cependant, voyez-vous, la crainte et le préjugé font encore aujourd'hui leur œuvre mortelle. Voyez-vous, rien n'interdit à l'Église de jouir pleinement aujourd'hui de la possession et de l'exercice de tous les dons de l'Esprit Saint. Rien ne les empêche. Et nous bénissons Dieu du fond du cœur pour ceux qui ont déjà été remis à leur place normale au milieu de nous. Il y a encore des territoires à explorer. Nous devons aller de l'avant avec le courage de la foi. Et puisque nous avançons sur des terres dont Dieu lui-même a tracé les frontières, nous pouvons avoir une pleine assurance qu'il nous permettra, cela dans sa grâce infinie, de jouir absolument pleinement de notre héritage. Soyez-en rassurés. Maintenant, quel est le but des dons spirituels? Les premiers prédicateurs de l'Évangile étaient pour la plupart des hommes du peuple qui étaient, paraît-il, sans beaucoup d'instructions. Aucun était Privatdozent de la faculté de Tübingen. Il est cependant très important que nous comprenions très clairement qu'ils étaient des instruments choisis par Dieu malgré leur faible instruction pour cette grande tâche. Les 12 avaient été choisis par Christ parmi une grande multitude de disciples. La suggestion qu'il ne les a employés que parce qu'ils étaient des hommes mieux éduqués ou plus doués ne peut subsister, car c'est pas vrai. Ils étaient son choix délibéré. Et ce principe, de même que son but divin, figure absolument noir sur blanc dans 1 Corinthiens chapitre 27, verset 29. Il est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Et Dieu a choisi les choses qu'on méprise celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. L'apôtre Paul, qui, selon son témoignage, aurait pu, et combien, se vanter de son éducation personnelle et davantage naturelle, a délibérément rejeté toute l'aide qu'il aurait pu en retirer, et il s'est glorifié du fait que la source spirituelle de sa puissance était en Christ seul, et cela par le revêtement de l'Esprit-Saint de Dieu. Notez Romains, chapitre 15, versets 18 à 19, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Bien plus, le témoignage de la vie de l'Église était surnaturel. Son message central était rendu au Christ ressuscité qui était monté au ciel à la droite du Père, mais qui agissait par et avec son peuple sur la terre et qui continuait ce qu'il avait commencé d'enseigner alors qu'il était encore parmi eux. Actes chapitre 1, verset 1. La puissance réelle pour un tel témoignage devait donc être le Saint-Esprit survenant sur les croyants, selon Actes chapitre 1, verset 8. Ces faits mettent en lumière le but immédiat des dons spirituels. Ils devaient, étant dans l'Esprit Saint, donner une possibilité plus étendue, beaucoup plus étendue que celle qui avait été procurée par les talents naturels. Fussent-ils même remarquables? Et de plus, ils devaient apporter une base surnaturelle à un ordre de ministère surnaturel. Donc, l'étroite relation entre les différents dons de l'Esprit et les différents offices au ministère établi par Dieu dans son Église est rendue apparente tout simplement par leur juxtaposition dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et comparez, s'il vous plaît, les versets 8 à 10 au verset 28. Un sujet dépend logiquement de l'autre, car ils ne sont même pas deux différents sujets, mais ils sont deux aspects seulement du même sujet. En ce qui concerne l'œuvre du ministère dans l'Église, ce sera toujours l'heureux privilège qui a été accordé à la consécration humaine d'utiliser pour le Seigneur les talents naturels qu'il nous a accordés par naissance ou en d'autres circonstances. Mais ce fait ne changera jamais rien, absolument rien, au principe fondamental que pour le genre de ministère révélé par le plan de Dieu pour son Église, le principe essentiel est une action dynamique du Saint-Esprit dans et par le ministre ou le pasteur de Dieu. Dans le Conseil divin, les dons spirituels sont donc destinés à servir de fondement au ministère chrétien. Le Nouveau Testament met cette vérité clairement en lumière Notez 1 Corinthiens, chapitre 12. Notez également Romains, chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 8. Ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10 et 11. Donc, les divers ministères énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 ainsi que Éphésiens chapitre 4 verset 11 sont fondés sur le ou sur les dons qui ont été accordés aux croyants. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, saint Paul passe tout naturellement de la description des dons, premier verset du chapitre, à celle des ministères qui découlent de ces dons, fin du même chapitre. Il n'y a peut-être pas un parallélisme absolu entre la liste des dons et celle des ministères, mais cela n'enlève absolument rien au principe. L'Église primitive, ayant reconnu que le Saint-Esprit avait départi ses dons avec une souveraineté absolue, comme il veut, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, reconnu aussi que de cette manière-là, Dieu avait donné à l'Église les divers ministères nécessaires à son témoignage envers tous ceux du dehors et à l'édification de ses membres au-dedans. Et sans aucun doute, c'est à cause des dons reçus du Seigneur par le croyant, que celui-ci était reconnu comme exerçant un des ministères chrétiens et qu'il était par la suite traité dans le corps de Christ comme étant lui-même un don du chef ressuscité, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Toute la Trinité sainte est en œuvre dans l'octroi des dons spirituels, comme le montre du reste l'étude des versets de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 5 et 6. Chers amis, nous avons posé le principe selon lequel tout ministère chrétien a pour origine un don de Dieu. Arrêtons-nous donc un instant pour considérer à quel point nous nous sommes écartés de ce principe aujourd'hui. On accepte dans le corps pastoral des hommes et des femmes qui ne sont même pas réellement convertis, à plus forte raison des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, condition essentielle d'un ministère efficace. De plus, la formation des pasteurs est en général une simple érudition accumulant des connaissances purement naturelles ou le perfectionnement de certains talents naturels sans qu'on prête pratiquement absolument aucune attention aux dons spirituels. La pratique constante des dons spirituels ne fournit pas seulement à l'Église les ministères dont elle a vraiment besoin. Étant surnaturels et divins dans leur origine, il en résulte qu'ils sont une continuelle manifestation de l'Esprit, oui, un témoignage absolument réel et fort rendu à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Le ministère fondé sur les talents naturels donne rarement cette impression-là. Le plus souvent, il attire l'attention, il est vrai, sur les qualités brillantes du pasteur et glorifie en lui surtout l'homme. Et le vrai ministère, qui est fondé sur les dons spirituels, laisse souvent l'homme à l'arrière-plan, mais glorifiera Dieu. Tel était le vrai ministère apostolique. Voyez par exemple le chapitre 2 de 1 Corinthiens. Le plan tracé par le Seigneur en vue des ministères dans son Église est dévoilé d'une manière splendide dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 27. Et il y a une part pour chaque croyant. En effet, si vous lisez correctement 1 Corinthiens 12, verset 12 jusqu'au verset 27, vous verrez qu'il y a vraiment une part pour chacun d'entre nous. Tous peuvent avoir part au ministère spirituel. Tous. Si l'on étudie le Nouveau Testament de bonne foi, on est contraint d'admettre que le ministère d'un seul homme qui prévaut d'une manière si générale dans les églises de nos jours n'est pas conforme à l'ordre divin révélé dans les Saintes Écritures. Précisons bien la portée de cette affirmation, de peur qu'on ne nous accuse de favoriser la tendance ultra-démocratique et anarchique préconisée par tous ceux qui ne veulent reconnaître ni charge, ni gouvernement, et qui voudraient en plus donner à tous la même autorité et la même position dans l'Église. Souvent, on se porte par réaction à cette extrémité, comme le pendule, par exemple, qui oscille d'un extrême à l'autre. Voyez-vous le modèle idéal qui est donné dans l'Écriture sainte présente une union, je répète, une union absolument parfaite de la liberté, oui, de la liberté qui est reconnue à tous de participer, vous et moi, au ministère spirituel. Et cela avec autorité, ou si vous voulez, avec l'autorité reconnue à quelques-uns qui reçoivent de Dieu des charges de gouvernement et qui ont des dons surnaturels pour exercer des ministères spéciaux comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je répète, avec l'autorité reconnue à quelques-uns qui vont recevoir de Dieu des charges de gouvernement et qui ont des dons surnaturels pour exercer des ministères spéciaux comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais comme il est beau, très beau, que le plus humble croyant d'entre nous ayant reçu un don spirituel, puisse apporter une force au corps de Christ tout entier, et que d'autre part, le corps entier soit frustré si ce ministère en apparence plutôt insignifiant, pourrait être empêché. Ainsi, voyez-vous, l'apôtre Paul, décrivant une réunion de l'église de Corinthe, écrit « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique ? Ont-ils une instruction, une révélation ? Ont-ils une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Dans le même chapitre, il se représente l'assemblée entière, parlant même en langue ou prophétisant, verset 5. Et il attend de ce dernier don des résultats fort précieux, selon les versets 24 et 31. Les dons spirituels correctement pratiqués ont pour fin, dans la pensée divine, des bénédictions toutes particulières pour les incroyants et pour l'Église de Dieu. L'exercice de ces dons pratiqués avec ordre est indispensable pour l'édification de l'Église. C'est ce que nous étudierons dans un prochain CD. Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, montre très clairement que le don auquel quelques-uns ont attribué un peu hâtivement un usage public, tel que le don des langues, a en réalité un usage privé, des plus importants. L'apôtre Paul remercie du reste Dieu de ce qu'il parle en langue encore bien plus que eux tous, verset 18. Mais cependant, et de toute évidence, il emploie ce don-là très rarement dans les réunions, selon le verset 19. La seule explication possible de cette contradiction apparente est que l'apôtre Paul pratiquait ce don en privé. La clé se trouve dans les versets 2 et 28 de 1 Corinthiens chapitre 14, où il expose, et cela avec netteté, que celui qui parle en langue parle à Dieu et non pas aux hommes. De plus, l'apôtre Paul ajoute qu'à l'occasion, il priera par l'Esprit seulement, c'est-à-dire en langue, et il n'avait pas peur, absolument pas peur, d'exercer ce don. Et qui peut dire à quel point les bénédictions reçues par autrui dépendaient de ses intercessions par l'Esprit Saint ou à quel point son puissant ministère, il faut le dire, se fortifiait par la plénitude divine jaillissant dans son âme, et cela par le moyen de cette forme si précieuse de communion avec Dieu. Donc, prier dans une langue inconnue est une pratique conforme aux Saintes Écritures. Il n'y a donc rien de défendu là-dedans. Il n'y a rien de malsain ou de mystérieux dans ce moyen de communion entre Dieu et l'homme. Dieu est esprit. et ceux qui l'adorent doivent donc ou devraient donc l'adorer en esprit et en vérité, selon Saint Jean chapitre 4 verset 24. Et il est dit clairement que le don des langues fournit à l'esprit humain un moyen de s'exprimer. 1 Corinthiens 14 verset 14 dit « Il fournit par conséquent un moyen légitime de communion entre le racheté et son rédempteur. » Je répète, si vous notez 1 Corinthiens 14 verset 14, vous verrez qu'il est dit « Il fournit par conséquent un moyen légitime de communion entre le racheté que nous sommes et notre rédempteur. » Pourquoi l'intelligence serait-elle toujours active dans la prière, spécialement dans l'adoration secrète? Les soupirs de l'Esprit-Saint peuvent fort bien, très bien s'exprimer en dehors d'elle. Les conséquences de l'expérience et du ministère surnaturel dans l'Église primitive ont été très importantes et elles constituent un des traits distinctifs de cette Église. Heureusement, nous l'avons vu, il y a tout lieu de croire que les mêmes choses peuvent se répéter aujourd'hui. Pourvu des dons de sagesse et des dons de connaissance, eh bien l'Église était en mesure d'exercer un ministère qui répandait la lumière divine, et cela tout en remplissant l'étonnement ou d'étonnement tous ceux qui avaient été accoutumés aux subtilités d'une orgueilleuse philosophie où il n'y avait point, absolument point de place pour des soi-disant folies. J'ai dit soi-disant folies. Cependant, voyez-vous, Dieu choisissait maintenant de faibles instruments. Eh oui, notez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 que nous avons déjà vu. Donc Dieu choisissait des faibles instruments. Et pourquoi cela? Pour confondre la sagesse du monde. Et ils mirent le monde sans dessus dessous en une seule génération. Et pourvu des dons de guérison et des miracles, l'Église avait une grande puissance dans le combat contre le paganisme. L'apôtre Paul, frappant Élymas de cécité, notez Actes chapitre 13, et guérissant des malades à Éphèse, notez Actes chapitre 19, et il guérissait le père de Publius, Actes chapitre 28. Voilà, entre autres, quelques illustrations de cette puissance. Pourvu des dons de foi et de discernement des esprits, l'Église se fortifiait contre la plus dure des persécutions. Il supportait les rigueurs de la guerre, car elle avait des prises surnaturelles sur l'invisible et sur l'éternel. Les pièges les plus subtils de l'ennemi ont voulu même se déguiser en anges de lumière, étant déjoués à l'instant même. Et pourvu des dons d'expression surnaturelle, l'Église entendait continuellement dans son sein des révélations qui enflammaient d'un feu divin les orateurs et l'auditeur, et qui précuraient, on peut dire, un ministère que ne pouvaient égaler ni les dons oratoires, qui étaient parfois très brillants, ni la logique la plus persuasive. Donc, elle en tirait un profit inappréciable d'exhortation, on peut aussi dire d'édification, de consolation. Selon la première épître de Corinthiens, chapitre 14, verset 3, elle avait donc un pouvoir extraordinaire, et cela pour convaincre les incroyants, selon le verset 24. Pour terminer notre étude aujourd'hui, pour la terminer, disons simplement que le but des dons spirituels correctement pratiqués dans les assemblées ou des églises, elle est résumée de la manière la plus forte et la plus précise dans les mots du verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 14, où il est dit que Dieu est réellement au milieu de vous. Tel était donc le témoignage, non d'un enthousiaste disposé à l'avance à tout accepter comme venant de Dieu, mais d'un incroyant entrant un peu sceptique dans une église peut-être même hostile. Cependant, les manifestations de l'Esprit de Dieu lui ont fait une telle impression que le sentiment de la présence de Dieu s'imposait à lui et lui restait ensuite comme, on peut dire, le souvenir dominant de sa visite à une église chrétienne. Il ne l'a jamais oublié. Tel est donc pleinement révélé le but dernier des dons spirituels. Ils servent donc à mettre l'homme en contact avec la réalité du Dieu invisible. Ils obligent l'Église à comprendre que le Saint-Esprit est toujours, absolument toujours présent et que tout vrai ministère vient bel et bien de lui, car il est pour elle la seule source de vie et de puissance. Et ils servent enfin à donner à l'incroyant la conscience que Dieu ne doit pas être oublié et que le péché ne peut pas être traité à la légère. Jamais. Et quand l'Église rentrera en possession de ses pouvoirs divins, quand elle possédera par pure grâce tous les dons spirituels, là, elle sera réellement belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme une armée sous leur bannière. Chers amis, nous pouvons maintenant terminer notre étude par la prière. Prions. Père Céleste, nous t'offrons encore en cet instant nos supplications et l'humble hommage de notre gratitude. Mais nous devons aussi nous humilier profondément devant toi dans le sentiment de notre indignité et de nos transgressions multiples. À ta loi sainte, on peut bien dire, Seigneur, quand on a ta sainte parole, peut-on se sentir faible et chancelant? Peut-on se sentir comme chacun de nous l'est parfois, hélas? Quand on a ta sainte parole immuable, peut-on se livrer à l'inquiétude, à l'agitation, à tant de troubles divers qui portent le désordre dans l'âme et dans le cœur? Quand on a ta sainte parole, peut-on être jamais en proie au doute? Peut-on rester dans l'ignorance des grandes et importantes vérités de ta religion divine? Peut-on oublier la mort? Peut-on oublier le jugement, le salut ou la condamnation? Quand on a ta sainte parole, peut-on, ô notre Dieu, l'oublier ou en faire un si profane usage? Combien ne nous sera-t-il pas redemandé au dernier jour, puisque nous avons tant reçu? Une multitude d'êtres ne possède point cette précieuse sainte parole de vie et de vérité, mais nous, nous l'avons entre nos mains, et à chaque instant, nous pouvons l'ouvrir et y puiser les directions, les encouragements, les consolations qui peuvent nous être nécessaires, et nous savons que sa connaissance illumine et rend les plus simples intelligents, car elle illumine notre esprit, aussi bien notre esprit intérieur que extérieur. Oui, notre portion, elle doit être de la garder, car elle seule peut servir de lampe à notre pied et de lumière pour notre sentier. Or, suivant ta sainte parole, tu soutiens tous ceux qui s'attendent à elle, et tu as promis d'être leur retraite et leur bouclier. Que tes bontés, Seigneur, et ta délivrance viennent sur eux, selon ta sainte parole, et qu'elle leur rend la vie. Daigne donc, Seigneur, dans ta miséricorde et tes compassions, incline nos cœurs à tes témoignages. Donne-nous l'intelligence et l'amour de ta sainte parole, qu'elle nous donne du secours, que nous la serrer en notre cœur, afin que nous ne péchions point contre toi. Alors notre âme vivra et nos pas seront affermis. Aucune iniquité ne dominera sur nous. Ô Éternel, que ta sainte parole subsiste toujours dans les cieux. Ta fidélité dure d'âge en âge. Oui, nous sommes à toi. Sauve-nous, que par ta grâce, nous puissions avoir en haine les pensées vaines et aimer ta loi. Exauce notre fervente prière, te souvenant de la sainte parole que tu nous as donnée et en laquelle tu nous as fait espérer. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous as donné cette sainte parole, ne nous abandonne pas à nous-mêmes et aie compassion de nous. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de notre série. À bientôt donc. Au revoir, mes chers amis.